Alors nous allons reprendre, si vous voulez, tout au début, et puis successivement, nous essaierons de comprendre ce que veut nous dire Aristote. Donc, c'est un livre très particulier, tout le monde le reconnaît, très important. C'est très rare qu'Aristote donne une réflexion critique sur ce qu'il fait. Mais plusieurs fois, c'est ça qui sera intéressant, voir en philosophie de la nature et en philosophie du vivant, des parties des animaux. Un tout petit peu dans le De Anima, et puis aussi dans la philosophie première. Un peu en éthique. Mais je crois que pour comprendre ça, il faut avoir devant soi tous ces livres de réflexion critique où Aristote nous dit un peu sa méthode. Mais voyez, n'oubliez jamais qu'Aristote est un inventeur. La méthode, ça vient après coup. Il faut déjà inventer pour savoir ce qu'est la méthode. Aristote pioche. Donc il avance. Nous sommes tellement habitués d'être des petits-fils d'inventeurs que nous regardons leur méthode avant de regarder leur originalité. Et ça, ça stérilise tout. Mettre la méthode avant la recherche, c'est stérilisant. Il ne faut jamais oublier ça. Or, depuis Descartes, la méthode est avant l'invention. C'est toute la différence entre Descartes et Aristote. C'est sacro-saint, les méthodes. En tout temps de connaissance et de recherche. Alors, vous avez auprès de toute théoriane. Ne traduisez pas théorie. Auprès de toute contemplation et méthode. Méthodos. Alors, méthodos, n'oubliez pas l'originalité du sens. Méthodos. La voie, c'est la recherche, c'est le sentier. Et méthodos, ce qui accompagne la recherche. C'est ça la méthode. On est tellement habitué à méthode. Et en français, le mot route ne va pas avec la route. On est des routiers. Hein? Méthodos. La plus simple, comme la plus haute, il semble qu'il y ait deux sortes d'attitudes. On nommerait bien la première science de l'objet, science de la réalité, et l'autre une sorte de culture. C'est très important ça. Bon, Aristote montre qu'il y a deux sortes d'attitudes. La première, qui est l'aspect où on ne regarde que l'objet, et l'autre, on regarde tout le milieu ambiant. Faites des applications à l'exégèse aujourd'hui. On oublie l'objet pour ne regarder que la culture. C'est très très important ça, vous voyez. Il y a toujours un double regard. On a deux yeux. Alors ne soyons pas borgnes. Parce que quand on est borgne, on n'a plus le relief. Alors, il y a un regard objectif, on dirait aujourd'hui, scientifique, et puis un regard beaucoup plus souple, la culture, dans lequel cet objet se donne à nous. Ça, c'est très très important. Il y a donc deux attitudes, hein, tout le temps. Donc, l'aspect scientifique, l'aspect humain. On pourrait dire ça. L'aspect scientifique et l'aspect humain. Parce que la science, c'est toujours la science d'un homme. Et l'homme a besoin d'une culture, d'un milieu. Il y a un milieu de recherche. Il y a un milieu d'invention. Car c'est bien le fait d'un homme cultivé que d'être apte à porter un jugement qui tombe juste sur la manière, correcte ou non, suivant laquelle on fait un exposé. Et un homme cultivé, c'est-à-dire un homme qui connaît. Vous voyez, vous retrouvez cette idée-là dans Parménide. L'inspiration regarde ceux qui savent. Il faut connaître. Pour que, à partir de là, il y ait comme une orientation nouvelle. C'est bien le fait d'un homme cultivé que d'être apte à porter krinei, un jugement. Krinein, un discernement. Vous voyez, jugement pour nous, il faut prendre le texte grec. Discerner, c'est ça juger, c'est discerner. On discerne le nécessaire de l'accidentel. C'est ça discerner. C'est bien le fait d'un homme cultivé que d'être apte à porter un discernement qui tombe juste sur la manière, correcte ou non, suivant laquelle on fait un exposé. C'est même à ce signe que nous reconnaissons la culture générale et le résultat de l'éducation est précisément cette aptitude. Avoir ce discernement, être capable de discerner le nécessaire de l'accidentel. Avec cette distinction toutefois, que nous reconnaissons tel homme capable de discerner, lui tout seul, pour ainsi dire, de toute chose. De juger de toute chose. Tandis qu'un autre ne sera compétent que dans un domaine déterminé. Admettons en effet qu'on puisse ne posséder que partiellement cette culture dont on vient de parler. Très très curieuse. Je crois que c'est la différence entre le spécialiste et le philosophe. Le spécialiste, on lui demande peut-être monocorde. Le philosophe, c'est toujours l'homme. Et donc, s'il connaît telle chose en particulier, ça va toujours en référence au tout. Le philosophe ne peut pas abandonner ce regard général, universel. Avec cette distinction toutefois que nous reconnaissons tel homme capable de discerner, lui tout seul, pour ainsi dire, de toute chose. Ça c'est le philosophe. Tandis qu'un autre ne sera compétent que dans un domaine déterminé. Admettons, en effet, qu'on puisse ne posséder que partiellement cette culture dont on vient de parler. Oui, au fond, je crois que là, Aristote montre la différence entre le spécialiste et le philosophe. Le philosophe ne peut pas être un spécialiste. Pourquoi ? Parce qu'il s'occupe toujours de l'homme. Pour être un spécialiste des araignées, rien connaître à l'homme, vous n'êtes pas philosophe. Le philosophe verra la relation entre l'araignée et l'homme. Même s'il est très spécialiste des araignées, il ne quittera pas l'homme. La même chose pour l'économiste. Un économiste spécialisé pour l'économie. S'il n'a pas ce regard général sur l'homme, il n'est pas philosophe. Alors évidemment, vous voyez, on reprendrait ça, nous, avec un regard beaucoup plus ample encore. Mais Aristote a saisi la différence entre la spécialisation, qui n'est pas philosophique, et le regard universel du philosophe, parce qu'il regarde l'homme. Il est donc clair que dans la recherche sur la nature, il faut poser un certain nombre de notions comme règles d'après lesquelles on appréciera la forme de la démonstration sans se demander comment les choses sont en fait de cette manière ou autrement. J'entends par exemple la question de savoir s'il faut prendre chaque substance à part et la déterminer en ne considérant qu'elle. Ainsi, étudier la nature de l'homme, du lion ou du bœuf, ou d'autres êtres, donc les araignées, en les prenant isolément, ou bien s'il faut auparavant réunir dans un exposé général les traits communs à tous. Aristote fait ça dans De Anima. Faut-il connaître l'âme in communi? Faut-il connaître l'âme de l'homme? Et ça, c'est très important. Je peux étudier l'homme comme un camp particulier. Je peux étudier l'homme comme roi des animaux. Deux regards très différents. Le spécialiste et le philosophe. Beaucoup de traits, en effet, sont communs à plusieurs genres, différents d'ailleurs les uns des autres. Sommeil, respiration, croissance, décroissance, mort. Et avec cela, tout le reste en fait de propriété et d'état. Les signaler maintenant serait obscur et vague. Il est évident que si nous traitons isolément des diverses espèces, nous devrons répéter souvent les mêmes choses. À ce stade, procédé d'économie dans la recherche. C'est curieux, ça joue, et ça, on retrouve ça chez Occam, on retrouve ça chez Saint Thomas. Le souci de saint Thomas en faisant la somme, c'est de ne pas répéter indéfiniment les choses. Mais il y a un souci d'économie. Ça, c'est la méthode. Un souci de pénétration, c'est un souci d'intelligence. Mais je crois qu'on retrouve ici ce que saint Thomas dira d'une manière beaucoup plus nette. Intellectus ratio. Raison. Donc, le souci de ne pas répéter indéfiniment, le souci de pénétrer vers quelque chose qui tout de suite est beaucoup plus profond et permettra d'avoir un regard beaucoup plus pénétrant. Intus les durées qui unifie, donc saisir des principes. Dès qu'on saisit un principe, on est beaucoup plus loin que les cas particuliers. Comment dort l'araignée? Comment dort le cheval? Comment dort l'homme? On regardera qu'est-ce que c'est que le sommeil. Mais les deux aspects, tout le temps. Alors, c'est très curieux, hein, de voir ce souci de la raison, des cas particuliers, le souci de l'intelligence de pénétrer plus loin. Alors ici, c'est l'avantage d'être dit à l'état brut. C'est Aristote qui dit ça à l'état brut. Il est évident que si nous traitons isolément les diverses espèces, nous devrons répéter souvent les mêmes choses. Chacun des traits dont nous venons de parler se rencontre chez les chevaux, les chiens et les hommes. Si donc on examine isolément ce qui leur appartient, on sera forcé de se répéter souvent, autant de fois qu'il y a d'animaux d'espèces différentes auxquelles conviennent ces traits, lesquels en eux-mêmes ne comportent aucune différence. Il se peut pourtant que ce qu'on désigne d'un seul nom se différencie suivant les espèces. Ainsi, la progression des animaux, elle n'est pas en effet d'une espèce unique, car vole, nage, marche, raptation sont choses différentes. Il ne faut donc pas rester dans l'incertitude sur la façon de conduire l'examen. J'entends sur cette question de savoir s'il faut commencer par des considérations communes, suivant les genres, et passer en dernier lieu à l'étude de ce qui est propre à chacun, ou bien s'il faut immédiatement étudier chaque espèce en particulier. Donc, interrogation, faut-il étudier le genre, faut-il étudier l'espèce? La grande question. Ce point n'est pas encore déterminé, non plus que le suivant. Faut-il que le naturaliste, à la manière du mathématicien dans ses études d'astronomie, considère d'abord les faits relatifs aux animaux et leurs parties, pour expliquer ensuite le pourquoi et les causes, ou bien faut-il procéder autrement? Très intéressant, ces deux aspects. Aristote considère donc les principes, les cas. Et deuxièmement, les genres, différents spécifiques, conduisent aux espèces, ou, au contraire, tout de suite, regardez les principes. Vous pourrez mettre l'inverse. Vous n'avez rien, ça n'a pas d'importance. Vous respectez parallèle les principes propres. Les principes propres ne sont pas les genres. La manière dont se diversifient les genres, la manière dont se diversifient les principes propres, ce n'est pas de la même façon. Les principes propres et les principes propres d'une espèce, les principes propres de quelque chose de général. Et je relis un petit passage. Ce point n'est pas encore déterminé, non plus que le suivant. Faut-il que le naturaliste, à la manière du mathématicien, remarquez bien, sur le modèle du mathématicien, dans ses études d'astronomie, l'astronomie existe déjà avant la biologie. Est-elle le modèle de la biologie? Très intéressant, ça. Considère d'abord les faits relatifs aux animaux et leur partie, pour expliquer ensuite le pourquoi, les causes, ou bien faut-il procéder autrement? Donc, on étudie les faits, ou le pourquoi. Les faits, c'est descriptif. Le pourquoi, c'est la connaissance philosophique. Les faits descriptifs se classent par genre et différents spécifiques. Les principes font pénétrer avant et donnent le pourquoi. Et les principes sont quatre. Vous voyez la manière différente dont on joue la division. Donc Aristote touche ici les deux niveaux d'intelligibilité. Le classement. La connaissance par les principes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Platon derrière, hein, et derrière le point de vue de la participation et du classement dont Platon fait les choses. Le mouvement dialectique. Pour Platon, la philosophie, c'est la dialectique. Faut-il maintenir cette division? Par genre et différents spécifiques, faut-il inventer quelque chose de nouveau? Point d'interrogation, question de méthode, on ne sait pas. de plus. Donc revenez à une connaissance où vous ne connaissez pas encore. N'appliquez pas à Aristote tout le cheminement postérieur que nous connaissons, nous. Parce que j'espère que vous comprenez bien. La division du genre en différents spécifiques n'est pas la même chose que la division des différentes causalités. C'est analogue. La manière dont le biologiste opère sa division, alors ce qui est très intéressant, hein, je mets tout de suite, c'est qu'Aristote reconnaît que c'est la division, hein. Vous auriez quelque chose de très analogue si vous regardiez les sciences d'aujourd'hui, la science biologique et la philosophie du vivant. Parce que c'est ça que nous devons avoir, hein, toujours. Aristote ne peut pas l'avoir, lui, mais nous pouvons l'avoir. Nous sommes supérieurs à Aristote là-dessus. Nous avons une nouvelle division. Pour Aristote, la division, c'est la division platonicienne et la division aristotélicienne. Il invente ça, hein. On divise par la dialectique platonicienne, on divise d'une manière nouvelle par la recherche du pourquoi. C'est deux types de division totalement différents. Aujourd'hui, le problème se transposerait de cette manière. La science biologique implique, comme toute science, une analyse. La science implique une analyse. S'il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de science. Et toute analyse se fait par la division. La philosophie se veut scientifique, mais scientifique d'une manière totalement différente que la science biologique d'aujourd'hui. Donc, il y a un type de division propre à la science aujourd'hui. Il y a un type de division propre à la philosophie. Et c'est au niveau de la division qu'on peut comprendre la différence. C'est des questions que vous voulez poser. Hein. C'est simple. Hein. Aristote nous montre la clé de voûte, toujours. La science moderne ne montrera pas la clé de voûte, comme Platon ne montre pas la clé de voûte. On divise les hypothèses pour Platon. Dans la République, c'est dit textuellement. Aristote connaît ses textes, hein, il les connaît bien. Et c'est bien la manière dont Platon a résolu le problème. Et Aristote n'accepte pas cette manière de résoudre le problème. Alors, faut-il le résoudre autrement ? Et le résoudre autrement pour lui, c'est le résoudre par la recherche des causes. Et la recherche des causes se divise autrement que la recherche des hypothèses. Le genre est toujours hypothétique. De plus, en tout devenir naturel, nous observons plusieurs causes. Par exemple, la cause en vue de laquelle et la cause à partir de laquelle se fait le changement. Donc, après cette vue très générale, prenons un cas particulier. Et on prend le devenir naturel. Peri den genesin den physiken, auprès du devenir naturel, la genesis, la génération. Il faudrait presque mieux plutôt devenir, il faudrait mettre la genesis. Genesis, donc ça implique la génération. Le devenir a pris pour nous un sens tellement différent. Alors, la génération naturelle, nous observons plusieurs causes. La cause en vue de laquelle et la cause à partir de laquelle se fait le changement. À expert de quoi se fait la kinésis. Il faut donc déterminer sur ce point aussi laquelle se trouve être première et laquelle seconde. Ah, très important. Seconde question, capitale. Après avoir vu la division différente, l'ordre. Premier et second. S'il y a deux causes, en vue de quoi ? D'où ? Laquelle est première, laquelle est seconde ? La méthode consiste à respecter l'ordre. C'est ça la méthode. C'est respecter l'ordre. Celui qui n'a pas de méthode, il va n'importe comment. Va comme je te pousse. Celui qui connaît a une méthode. Et la méthode évite la répétition.
Mais quand on peut avoir un ordre, est-ce qu'on est dans un ordre de recherche, comment, puisque vous parlez de méthode, est-ce que c'est pas, ça ne va pas être un ordre a priori ?
Oui, je crois que la méthode implique toujours d'avoir déjà découvert. Autrement, c'est a priori. C'est ce qu'il reproche à Platon. C'est que la dialectique est a priori. Est-ce que vous avez la méthode avant l'objet ? À Fribourg, un des professeurs de philosophie, que je ne nommerai pas, commençait son cours de philosophie comme ça. Avant, la connaissance philosophique se faisait à partir de l'objet. Maintenant, elle se fait à partir des méthodes. Ce qui est intéressant ici, vous voyez, c'est que il met en lumière deux types de divisions. C'est pas suffisant. Quand on divise, il faut encore un ordre. Vous voyez ? Je crois qu'Aristote rappelle les exigences d'une méthode. Vous voyez ? Alors, d'abord la division, ensuite l'ordre. On va voir ces autres éléments. C'est pour ça que je n'aime pas beaucoup l'explication en biologie mécaniste et finalité. C'est pas ça qu'Aristote dit. Ça, c'est déjà une projection a posteriori. Il faut donc déterminer sur ce point aussi laquelle se trouve être première et laquelle seconde. Il semble que la première cause soit celle que nous appelons en vue de quoi ? En effet, elle est le logos. Et le logos est principe, aussi bien dans les produits de l'art que dans ceux de la nature. Toujours la même chose. Hein. L'art avant la nature. Pour Aristote, hein, comme Manu Doxio, le médecin commence par déterminer, soit par raisonnement, soit par observation, ce qu'est la santé. L'architecte, ce qu'est la maison. Il rend compte, par là, des raisons et des causes de leur démarche et du pourquoi de leur action. Or, il y a davantage de finalité et de beauté dans les œuvres de la nature que dans les fabrications humaines. Ça, c'est très important de se rappeler ça. On peut très bien ne pas d'accord. Hein. Or, il y a davantage de finalité et de beauté dans les œuvres de la nature que dans les fabrications humaines. Ça semble juste inverse. Il faut comprendre. Je crois qu'il faudrait faire une petite distinction ici. Or, la finalité et la beauté sont plus manifestes dans les fabrications humaines que dans la nature. Mais ils sont plus enracinés dans la nature que dans les œuvres d'art. Vous voyez ? Alors c'est pour ça que là, on sent très bien, petit point d'interrogation. D'autre part, parce que ça, c'est pour être très hegelien, Hegel dit, Il y a le virus inverse. Il faut bien le comprendre. C'est par le chant du rossignol que j'apprécie les mélodies d'un artiste. Ou bien l'inverse, est-ce que c'est par les mélodies de l'artiste que j'apprécie le chant du rossignol? Aristote semble dire, j'apprécie les mélodies grâce au chant du rossignol. Et Hegel dit l'inverse dans son esthétique. Mais c'est intéressant parce qu'on retrouve le même problème chez Hegel et chez Aristote, avec un ordre différent. Or, il y a davantage de finalité de beauté dans les œuvres de la nature que dans les fabrications artistiques, que dans les fabrications humaines, que dans les œuvres d'art. D'autre part, la nécessité à laquelle certains s'efforcent de réduire à peu près tout logos, faute de distinguer les acceptions diverses du nécessaire, ne se rencontre pas de façon identique dans toutes les œuvres de la nature. Nécessité absolue dans les êtres éternels, nécessité conditionnelle dans les êtres soumis au devenir, de même que dans les objets artificiels, dans les œuvres artificielles, maisons, ou quoi que ce soit de semblable, telle matière est nécessaire si telle maison doit être réalisée ou quelque autre fin. Il faut que ceci soit produit et transformé, et ceci encore, et ainsi de suite, sans interruption, jusqu'à la fin, jusqu'à ce en vue de quoi chaque chose est produite et existe. Pareillement, dans ce que produit la nature, est la forme de la démonstration et de la nécessité n'est pas la même dans les sciences, dans la science de la nature et dans les sciences contemplatives, théorétiques. On l'a exposé dans d'autres ouvrages sur ce sujet. Alors en effet, que dans les unes, c'est ce qui est principe. Dans l'autre, c'est ce qui doit être. Ainsi, c'est parce que la santé de l'homme est telle chose qu'elle est nécessaire, qu'il est nécessaire que telle chose existe ou se produise. Et ce n'est pas parce que telle chose existe ou se produit que nécessairement la santé s'en suivra. Ceci est très intéressant, hein, à bien noter. Aristote reconnaît que l'ordre de nécessité scientifique est divers dans l'ordre pratique et dans l'ordre théorique. Ce qu'un marxiste ne reconnaîtra plus, ce qu'un hegélien ne reconnaît plus. L'ordre de nécessité est différent dans les œuvres d'art et dans l'œuvre de nature. On n'est pas le même type de nécessité. Pourquoi? Parce que dans les œuvres d'art, la nécessité apparaît immédiatement avec la finalité. C'est parce que le médecin cherche la santé qu'il va appliquer tel remède. C'était hypothétique parce que je recherche la santé. La santé qui n'existe que dans l'esprit du médecin, pas dans le malade, puisque le malade en tant que malade n'a pas la santé. Donc elle n'existe que dans l'esprit du médecin. Et c'est en fonction de la santé dont il a le paradigme, dont il a l'exemplaire, qu'il va recommander tel ou tel remède. Dans l'œuvre de la nature, c'est l'inverse. La nature possède sa finalité avant. Elle est inscrite dans la nature. Et le développement de la nature se fait en fonction de ce bien. C'est pour ça que la beauté et la finalité sont plus profondément inscrites dans la nature que dans la connaissance. Parce que la finalité est première dans la nature. Elle est cachée. dans les œuvres d'art, où je réalise d'abord le moyen en vue de la fin que l'artiste possède, que le médecin possède. Ainsi, c'est parce que la santé de l'homme est telle chose qu'il est nécessaire que telle chose existe, se produise. Et ce n'est pas parce que telle chose existe et se produit que nécessairement la santé s'en suivra. Ce serait trop commode. Je te donne ce médicament en vue de ta santé, donc tu as la santé. Notre Seigneur dit des choses comme ça à propos de la prière, vous savez. Quand tu pries, crois que c'est déjà arrivé. Pourquoi ? Parce qu'on se rejoint la finalité divine. Qui, lui, voit tout de suite la finalité. Je ne pouvais pas dire ça dans l'œuvre d'art. Je te donne tel médicament. Eh bien, sois convaincu qu'à cause de ce médicament, la santé est déjà là. Ainsi, c'est parce que la santé de l'homme est telle chose qu'il est nécessaire que telle chose existe ou se produise. Et ce n'est pas parce que telle chose existe ou se produit que nécessairement la santé s'en suivra. Il n'est pas possible non plus de ramener à l'éternel la nécessité d'une démonstration de ce genre. De manière à pouvoir dire que puisque telle chose existe, telle chose existe. Cela a été précisé ailleurs, de même qu'ont été déterminés les êtres où se rencontrent nécessité et réciprocité et pour quelle cause. Mais ce qu'on ne doit pas passer sous silence, c'est la question de savoir s'il faut exposer comment ont fait nos prédécesseurs dans cette étude plutôt la genèse des êtres que leur constitution. Car la différence n'est pas petite entre les deux procédés. Aristote souligne ça. C'est très très important ça. Ça coule. C'est pile hein, ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que c'est intéressant. Mais ça ne doit pas passer sous silence. Hein ? C'est grave. Mettez ça en lumière. C'est la question de savoir s'il faut exposer, comme ont fait nos prédécesseurs dans cette étude, plutôt la genèse des êtres que leur constitution. Car la différence n'est pas petite entre les deux procédés. Donc, insistons là-dessus puisque c'est important. C'est pas sous silence. Très important pour toute la psychologie contemporaine. Parce que c'est le coup de patte qu'Aristote donne, de façon prophétique. Ses prédécesseurs, il aurait pu dire plus tard. C'est intéressant de voir qu'on retombe tout le temps dans les mêmes défauts. C'est ça qui est intéressant, qu'il n'y a rien d'original. Donc Aristote distingue deux ordres. Un ordre génétique et un ordre de nature. Dans l'ordre génétique, l'imparfait est premier. Aristote dira ça d'une manière extrêmement précise. Métaphysique, livre Theta. Chapitre 6 ou 7. 6, 7. Dans l'ordre génétique, l'imparfait est premier. Et on tend vers le parfait. On tend de la puissance. Être en puissance les premiers dans leur génétique. Si, parce que dans leur génétique, toujours, la matière est première. Ils tendent vers le parfait. Selon l'ordre de nature, le parfait. C'est la constitution, hein, l'ordre de nature, la structure d'une chose. Finalité. Le parfait premier. Et à partir du parfait, nous comprenons l'imparfait. Voilà deux ordres tout à fait différents. Il y a un ordre scientifique et un ordre non scientifique. L'ordre génétique ne peut pas être scientifique. Et descriptif. Très intéressant et descriptif. Il ne dit pas les causes. On décrit ce qui est en puissance. Ce qui est en puissance ne peut être que décrit. Tandis que l'autre est un ordre scientifique. Parce que celui-là se fait par les causes. Le parfait, on saisit sa forme, sa structure, sa fin. Je ne peux saisir la fin qu'à partir de la forme, à partir de la nature. Et à partir de là, je saisis la fin. Et je saisis d'où il vient. Pour ça, je co-saisis la matière. Donc il y a un ordre scientifique à partir de l'ordre de nature. Il n'y a pas d'ordre scientifique. Scientifique au sens philosophique. Hein, comprenons bien. Donc, la découverte des causes. Il n'y a pas de science sans découvrir les causes. La description ne fait pas découvrir les causes. Donc vous voyez, il sera intéressant ici de voir la division descriptive, l'analyse scientifique par les causes. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va ? C'est l'heure maintenant, déjà. C'est l'ordre scientifique, ça. Ou l'ordre descriptif. Bon, réfléchissez bien à ça. Tout est là, vous voyez, pour Aristote. Alors, je crois qu'il faut bien saisir qu'une méthode pour Aristote, c'est donner l'ordre de la recherche. Savoir comment on divise.